programme va maintenant se poursuivre en français.
Vous écoutez Radio Prague, émission en langue française. Dans cette émission spéciale Saint-Sylvestre, nous vous proposons de découvrir un peu mieux Leoš Janáček, l'un des plus grands compositeurs tchèques du XXe siècle. Longtemps considéré comme difficile d'approche, ses opéras connaissent ces derniers temps, notamment en France, un regain d'intérêt avec plusieurs mises en scène à succès. L'Opéra National du Rhin à Strasbourg propose d'ailleurs depuis 2010 un cycle Janáček présentant ainsi notamment Yenoufa, l'affaire Makropoulos, ou encore Katia Kabanova. Anna Kubishta s'est entretenue avec Marianne Fripia, musicologue, auteur d'un ouvrage intitulé Janáček Opéra, mode d'emploi, sorti en 2011 en France.
Snášet na dávky, než by se mi chtělo. Musím, ale proč pak musíte, že se tak ptám? Proč bych neodpověděl? Znal jste moji babičku,
Anfisu Michajlovnu?
Ta neměla tatínka ráda, protože si vzal šlechtičnu. Z té příčiny žili v Moskvě. Maminka říkávala, že nemohla ani tři dny s rodinou se snésti.
Darmo mluvit,
vše jí připadalo tak kruté.
To by si člověk musil síly zvykat.
Rodiče nás v Moskvě dobře vychovali, ničeho pro nás nelitovali. Dali do obchodní akademie a sestru do penzionátu. Ale potom oba zemřeli na choleru a já se sestrou jsme zůstali sirotami. Potom slyším, že také babička tady zemřela a zanechala závěr, aby nás stric vyplatil, až budem plnoletí. Podmínkou,
jakou
budeme-li k němu úctiví,
tak to vaše záležitost špatně dopadá.
Kdybych já byl sám, nechal bych vše a ujel bych. Ale sestry je mi líto, už pro ní psal. Ale to by činí příbuzní nepustili. Jaký byl by to pro ní zde život?
To je, jaký
další náš.
Co pak je? Snad už nechodí lidé z večerní bohoslužby. Už s Bohem.
Posečkej ještě, umím svoje mládí, umím svoje mládí. Já ráda, a jen strádání, jen strádání. A radost života vede jí v lednoucí.
Svatoušek žebráky poděluje, ale domácí dík smrti ukousala.
Bonjour Marianne Fripia.
Bonjour.
Vous êtes musicologue et vous vivez à Prague depuis une dizaine d'années, depuis 2001. Vous venez de sortir en France un petit ouvrage qui s'appelle Janáček, mode d'emploi. Alors c'est aux éditions Avant-Scène Opéra.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait un petit peu dire comment est-ce est née cette idée d'ouvrage ?
L'ouvrage est né après une première collaboration. J'avais été invitée à écrire un article pour un numéro de l'avant-scène opéra consacré à la Maison Morte. En fait, il faut savoir que cette maison d'édition, l'avant-scène, publie essentiellement des revues monothématiques consacrées à un opéra chaque fois. Et puis, elle a commencé une nouvelle série qui s'appelle les modes d'emploi. Et donc, j'ai commencé à collaborer avec la revue tout d'abord. Puis, l'éditeur a été satisfait de mon article. Et il m'a proposé ce Janáček dans la collection des modes d'emploi.
Alors, je disais en introduction que vous êtes musicologue. À la base, c'est pour ça que vous vous êtes rendu à Prague, que parce que vous vous spécialisiez dans la musique tchèque.
Non et oui. C'est-à-dire que je suis musicologue, mais j'avais envie de d'entrer dans les détails d'analyse de Janáček, et c'est pour Janáček que je suis venue en République tchèque. Donc au départ, ce n'était pas un amour général pour la musique tchèque, mais en fait un cycle de perfectionnement au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, et je voulais avoir accès aux archives Janáček à Brno. Donc je me suis dit, rien à faire, il faut aller en République tchèque, il faut apprendre la langue. Et puis j'ai fait le grand saut et ça fait 10 ans. Oui.
Et ça fait 10 ans. Alors pourquoi Janáček ? Alors c'est pour ça que c'est peut-être une petite forme de transition vers la personnalité de Janáček. On reviendra peut-être un petit peu sur son portrait. Mais pourquoi vous particulièrement avez-vous aimé la musique de Janáček ? Quel est votre Janáček ?
Alors difficile de répondre en étant concis. Janáček m'a passionnée pour plein de raisons. D'abord parce que sa musique, elle vous prend aux tripes, en fait, et c'est difficile de rester indifférent. C'est une musique qui est d'un contenu, d'une densité humaine spécifique. C'est pas comparable pour moi à l'opéra italien, par exemple, enfin un certain opéra italien. Donc j'ai été saisie par ce contenu dramatique, cette épaisseur psychologique de la musique. Et puis il y a une autre chose, c'est que j'avais commencé à travailler sur Janáček au conservatoire, et que il y avait quelque chose d'absolument râlant dans le fait qu'on ne parvenait pas à obtenir les partitions, soit que il n'existait pas d'édition critique, soit qu'elles étaient difficiles à obtenir, ou en langue allemande même. Et puis quand on écoutait les disques, on constatait qu'il y avait des milliers de coupures et que ça ne correspondait absolument pas à ce qui était écrit. Donc ça m'a fait enrager. Je me suis dit que c'était un parfait sujet d'étude et que j'avais envie de voir clair.
Donc c'était finalement vous titiller que finalement il n'existe pas, il n'existe que peu de choses finalement disponibles sur Janáček, en tout cas en ce qui concerne les partitions.
Oui, et puis c'est exaspérant de voir que, quand on écoute un opéra et qu'on voit qu'il y a plein de coupures qui sont faites par les interprètes, que la partition ne correspond pas au disque, on se dit mais c'est quoi sa musique ? Et quand en fait on sait qu'on est passionné par un compositeur, on ne peut pas rester indifférent devant la manipulation des œuvres. On a envie de savoir ce que lui il a écrit.
Alors peut-être qu'il y a des raisons à cela. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que visiblement, comme vous le dites, il y a cette espèce de manipulation avec les œuvres ? Est-ce que c'est spécifique à Janáček ou ça se fait finalement, c'est une pratique courante qui se fait, même si elle n'est pas forcément très honnête.
Il y a toute une série de degrés dans la manipulation avec les œuvres. Disons qu'Janáček a été fortement touché et que ça peut se comprendre parce que ses opéras, ils n'étaient pas ordinaires, et que face à cette matière-là, généralement, ce qui a le plus choqué, c'est le manque de logique ou le manque de convention. Donc souvent les manipulations qui ont été faites l'ont été dans le sens d'un rabaissement à la norme,
d'une simplification.
Oui, en tout cas, en rendant plus explicite, plus logique, plus traditionnel.
Donc d'une certaine façon, en fait, Janáček était hors norme et on essayait de le normaliser.
Oui, je crois. Mais pas nécessairement dans... Enfin, c'est un vocabulaire compliqué, celui de la normalisation. Je dirais que c'était plutôt dans le sens des conventions traditionnelles de l'opéra. C'était pas nécessairement idéologique. Encore qu'il faudrait nuancer beaucoup.
Justement, ça me fait penser au fait que, en effet, on dit souvent, en tout cas c'est comme ça qu'est perçu Jana Tchèque, que c'est compliqué, que c'est difficile d'approche, d'où peut-être ces simplifications également. Pourtant, justement, ces dernières années, et votre ouvrage en est un peu aussi, je pense, la preuve, en tout cas l'illustration, en France, en tout cas, on redécouvre Jana Tchèque. Enfin, il n'y avait pas, par exemple, l'an dernier... un mois ou disons sans qu'on lise un article sur telle mise en scène à tel endroit. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on redécouvre tardivement l'œuvre de Jana Tchèque, ou alors est-ce le fruit finalement de vagues de mode?
Je n'ai pas résolu cette question, je me la pose aussi. Qu'on dise que Jana Tchèque est compliquée, c'est une phrase que j'entends souvent en République tchèque plus qu'ailleurs. Si vous demandez leur opinion aux Tchèques, ils vous diront qu'ils n'aiment pas Jana Tchèque, qu'ils préfèrent Dvořák ou Smetana. Enfin, c'est ce que j'ai eu l'impression d'entendre souvent. Je n'ai pas tellement entendu cette opinion-là en France, ou moins, disons. Pourtant, je pense que Jana Tchèque est terriblement compliqué si on veut entrer dans les détails. Alors, pourquoi est-il à la mode aujourd'hui? Je n'aurai pas de réponse complète, mais... peut-être qu'un indice, ce serait qu'aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à l'aspect théâtral dans l'opéra, et que Jana Tchèque est un des compositeurs les plus dramatiques. Donc, peut-être qu'il se prête mieux à cette vision de l'opéra qui tend à le rapprocher du drame.
Justement, dans votre ouvrage, vous parlez à propos de Jana Tchèque de théâtre parlé. Alors, c'est une expression, je suppose, consacrée pour Jana Tchèque. Et en quoi, justement, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire, peut-être, je ne sais pas, sur un opéra, par exemple, que de votre choix, comment ça s'illustre et en quoi c'est révolutionnaire?
Alors, en fait, pour moi, Jana Tchèque, son grand apport, c'est d'avoir rapproché l'opéra du théâtre parlé. C'est peut-être dans ce sens-là que vous l'aviez lu, en rapprochant le rythme de déroulement de l'opéra, donc de la musique chantée, en le rapprochant du rythme du théâtre parlé. C'est une, à mon avis, l'une des plus grandes innovations de Jana Tchèque dans le domaine de l'opéra. Ça passe aussi par une volonté de rendre la parole beaucoup plus libre quand elle est de la franchir des conventions du chant qui ont dominé pendant tout le 19e siècle.
Alors, puisqu'on parle justement de la parole, alors évidemment, Jana Tchèque, c'est en tchèque. Il y a des opéras tchèques, hein, évidemment, mais les opéras italiens sont sans doute peut-être plus pratiqués, plus connus. Mais évidemment, ça pose peut-être, ou peut-être pas d'ailleurs, un problème aux chanteurs étrangers. Alors, quels sont un peu les enjeux pour ces chanteurs étrangers de la langue tchèque?
Je dirais qu'il y a au moins deux enjeux qu'on peut prendre en compte. Le premier, c'est un enjeu purement phonétique. Il faut s'habituer à la prononciation tchèque. On entend souvent dire que le tchèque est difficile. En réalité, si on est bien coaché, je pense que c'est une des langues les plus faciles à prononcer et les plus faciles à apprendre, puisqu'il n'y a pas de différence entre la graphie et l'aspect sonore.
Oui, c'est une langue phonétique, on pourrait dire.
Oui, c'est ça. Donc, à mon avis, si on est bien entraîné, je pense que ça va. En plus, le tchèque a de gros avantages, c'est que les consonnes sont très sonores, donc elles permettent de propulser la parole ou le chant. Donc je pense qu'en fait, l'argument du tchèque, langue difficile à chanter, je dirais plutôt que c'est l'inverse. En revanche, le deuxième enjeu, c'est un enjeu qui est commun à tous les chanteurs qui doivent chanter dans une langue qui est étrangère à leur langue maternelle, c'est que, en fait, la ligne vocale chez Jana Tchèque est souvent dépendante de ou en relation étroite avec le sens des mots. Donc si on ne comprend pas ce que tel mot veut dire, mais comprend l'ensemble de la phrase, c'est pas nécessairement comme ça qu'on arrivera à bien la prononcer ou à bien la chanter. Et ça, je pense que c'est très difficile. Il faudrait presque avoir quelqu'un qui guide de mot à mot. Il y a aussi une troisième chose que j'aurais aimé rajouter, c'est que Jana Tchèque est particulièrement difficile à chanter, que ce soit en tchèque ou dans une autre langue, mais tout simplement parce qu'il a une manie d'écriture avec des sauts intervalliques complètement sidérants, du grave à l'aigu qui sont très difficiles à chanter. Alors effectivement, si c'est dans une langue étrangère, ça peut être encore plus dur.
Alors justement, puisqu'on parle de langue, ça a été longtemps chanté en allemand. C'est Max Brod notamment qui a traduit de nombreux textes de Janáček.
Oui. On pourrait discuter longuement, mais je pense qu'en fait c'est une bonne chose que Max Brod ait traduit les opéras de Janáček en allemand, parce qu'à l'époque c'était le moyen le plus facile pour ces opéras de pénétrer dans le monde germanique et de se faire connaître.
Et alors, ça a été longtemps interprété en allemand. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on choisit de rechanter en tchèque?
Je crois que c'est un mouvement international qui fait qu'on a plutôt tendance maintenant à chanter les opéras des auteurs étrangers dans la langue d'origine. C'est un mouvement international avec des petits îlots de protestation, comme en Angleterre, où on continue de chanter en langue anglaise. En fait, il y a des partisans et des opposants à cette tendance un peu partout.
Alors, est-ce qu'on pourrait un petit peu parler de Janáček? Alors, cette fois-ci, un peu plus, on a beaucoup parlé là de Janáček, des textes, difficiles, pas difficiles d'accès, etc. Est-ce que vous pourriez nous résumer, si c'est possible, faire brosser un peu un portrait de Leoš Janáček, sa vie, à défaut de son œuvre, dont on a déjà un petit peu parlé, dont on reparlera peut-être un peu après?
Je dirais que sa vie, elle commence dans le nord de la Moravie, dans le petit village d'Ugvaldi, où il a passé son enfance et qui restera un havre de paix et un lieu créateur dans ses dernières années. Il est fils d'un instituteur, donc issu d'un milieu d'intellectuels, et son père est mort très tôt, donc il a été confié plutôt à la fondation des Augustins à Brno, où il a passé son enfance sous la conduite d'un ancien élève de son père, qui est Pavel Krzyszkowski. Le monastère, la fondation des Augustins était logée dans le monastère des Augustins. Et je crois que de cette époque, Janáček a développé une hantise pour tout ce qui est religieux. Il ne supportait plus dans sa vie adulte tout souvenir du milieu monastique, et puis il avait horreur de mettre les pieds dans des églises. Ce qui est important, c'est que à la fois dans son milieu familial et à la fois au monastère du vieux Brno, il a été plongé dans un milieu complètement patriote et également russophile. Ça, ce sont deux orientations qui ont marqué Janáček pendant toute sa vie.
Donc il s'inscrit un peu, si on veut, dans cette espèce de courant un peu panslaviste de la fin du 19e siècle, et puis de volonté d'avoir des pays tchèques indépendants de la couronne austro-hongroise.
D'abord, le patriotisme tchèque à cette époque-là, c'était un patriotisme de revendication d'autonomie, mais qui n'allait pas nécessairement jusqu'à
l'indépendance. Hein.
Jusqu'à l'indépendance. Il y a eu pendant longtemps le souci que les Tchèques obtiennent des droits égaux, par exemple, aux Hongrois, au sein de l'Empire austro-hongrois après le compromis. Donc, ça n'allait pas jusqu'à une indépendance politique. Plusieurs courants se sont développés qui étaient liés à cette idéologie patriotique. C'est la russophilie et le panslavisme. Alors après, il y a des sous-courants encore plus précis. Janáček était russophile et il était aussi panslave.
Comment ça s'illustre, par exemple, dans ses œuvres?
Ça s'illustre essentiellement sur le plan du programme, avec un choix de thématique. Ça ne s'illustre pas dans la musique, en fait. Donc, on ne pourrait pas dire que la musique de Janáček est plus spécialement panslave que celle de Dvořák. Ce serait difficilement prouvable. En revanche, il choisit souvent des sujets comme d'écrivains russes ou qui peuvent être relus de manière patriotique, en fait, comme Taras Bulba.
Et puis il admire aussi Dostoïevski, puisque Souvenir de la maison des morts. Oui. C'est tiré d'un ouvrage de Dostoïevski.
Oui, la littérature russe est absolument capitale pour comprendre Jana Tchèque.
Vous parliez de Dvořák. Ils se sont connus, quelles étaient leurs relations et puis quel était finalement le rapport de Jana Tchèque à cette grande figure incontournable de la musique tchèque.
Ça a été un rapport d'admiration et de soutien actif. C'est-à-dire que le jeune Jana Tchèque, d'abord, s'est lié d'amitié avec Dvořák à Prague pendant son séjour à l'école d'orgue. Ensuite, cette amitié s'est développée, ils sont restés en bon contact. Jana Tchèque, qui admirait Dvořák, lui a envoyé à plusieurs reprises des partitions pour obtenir son avis. Et puis, quand il était chef de chœur et chef de la Beseda Brnienska, donc d'un petit orchestre en fait, il a monté à plusieurs reprises des œuvres de Dvořák et les a défendues à Brno. Donc, cela dit, dans les détails, la relation de Jana Tchèque et de Dvořák, elle est pleine de mystères. Parce que, par exemple, Jana Tchèque s'est emparée d'un livret d'opéra qui était au départ prévu pour Dvořák, mais Dvořák n'avait pas été enthousiasmé par ce livret, c'est celui de Charka, et ne l'avait donc pas utilisé. Puis, quand Jana Tchèque a composé un opéra sur ce livret, il a envoyé la partition à Dvořák, Dvořák lui a demandé de la remanier, et entre-temps, Jana Tchèque s'est adressée à l'auteur du livret, qui n'a jamais accepté qu'on l'utilise. Et dans ce cas-là, on est un peu perplexe. Pourquoi est-ce que Dvořák n'a pas soutenu Jana Tchèque, sachant que finalement il n'utiliserait pas ce livret-là? Et puis une autre chose aussi, Dvořák ne s'exprimait pas par écrit sur les partitions de Jana Tchèque. Donc quand il faisait des commentaires, on sait que c'est par oral, tout est perdu. Donc il y a quelque chose d'obscur qui reste dans cette relation.
Vous dites dans votre ouvrage que Jana Tchèque avait commencé tard, en fait. Comment ça se fait?
Ça s'explique par le fait qu'il est extraordinairement honnête dans son approche à la composition. C'est-à-dire qu'il cherchait quelque chose, qu'il n'est pas arrivé, je pense, à trouver directement un style qui lui convienne. Donc, en fait, il n'a pas été tardif dans le sens où son premier opéra, Charka, dont on vient de parler, a été écrit quand il avait une trentaine d'années, ce qui est assez correct, disons. Mais il a fini par se rendre compte que ce n'était pas sa voie, par chercher d'autres choses qui ne l'ont mené à rien, ou bien qu'elles lui ont apporté trop peu. Et le temps de construire un style ou un langage qui soit véritablement personnel, ben ça lui a pris beaucoup de temps, facilement.
Il a vraiment cherché sa voie avec opiniâtreté.
Oui.
Comment est-ce que son œuvre a été reçue, en tout cas ses premières œuvres?
Charka n'a pas été joué. Ensuite, il y a eu le début d'un roman et puis toute la vague folkloriste qui l'a placé donné de lui l'image d'un compositeur folkloriste. Ce qui était déjà un sérieux malentendu. Puis est venu Yenoufa, qui a été très bien accueilli à Brno, en fait, dans le cercle des partisans d'Jana Tchèque, mais qui a été refusé à Prague. Je crois que Jana Tchèque a beaucoup souffert de son tempérament, en fait, parce que c'était pas quelqu'un de coulant. Il avait la critique très vive.
Facile.
Oui. Si lui s'est cherché, il avait le sentiment que les autres
devaient en faire autant.
Pourquoi pas? Donc, il critiquait facilement ce qui, à ses yeux, n'était pas d'assez grande valeur. Et on se crée facilement des ennemis comme ça. Donc.
Et à l'étranger, quels ont été un peu ses propagateurs? Alors, en son temps et puis peut-être plus tard?
En son temps, il y a eu Otto Klemperer, il y a eu Erik Kleiber, aussi Sir Henry Wood. Puis il y a eu les grands chefs d'orchestre, mais qui sont venus plus tard, comme Mackeras par exemple, et avant lui Kublik ou Hans Scherl.
Je pense qu'on arrive tout doucement à la fin de cet entretien. Je suppose qu'on a oublié énormément de choses. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez rajouter sur Jana Tchèque ou sur votre travail, sur ce que ça vous a apporté aussi personnellement?
Ce que ça m'a apporté, c'était... Bon, ça m'a apporté beaucoup de choses. L'un des apports qui mériterait d'être souligné et qui fait la particularité de... des livres de la collection Mode d'emploi à l'avant-scène opéra, c'est qu'ils sont conçus pour contenir une partie historique ou thématique, qu'ils expliquent les enjeux des opéras sur le plan dramatique et sur le plan de l'histoire de la pensée, en fait. Mais qu'il y a aussi toute une partie qui est consacrée aux interprètes. Et je crois que ça, c'est un des plus grands apports pour moi. Donc, j'ai une formation musicologique où finalement, on est assez peu entraîné à prendre en compte l'interprétation. Souvent, on a une approche très théorique et finalement, bon, si l'interprète interprète de telle ou telle façon, c'est pas grave. On essaye de passer outre.
C'est-à-dire que l'humain est un petit peu absent. C'est un peu ça que vous voulez dire, peut-être. Oui, la matière humaine.
L'aspect, oui, disons ça, oui. Ici, je me suis rendu compte que c'est phénoménalement intéressant. De faire le va-et-vient, parce que les interprètes proposent une lecture qui peut changer notre façon de voir, en fait. Et c'est très enrichissant, en fait. Ça nous permet d'ouvrir plein de portes, de reconsidérer l'œuvre, de sentir différents équilibres. Je crois que l'interprète a... Enfin, j'ai plus pris conscience... du degré d'importance de l'interprète et de la manière dont lui façonne notre perception de l'œuvre.
Marianne Frippia, je rappelle que vous êtes musicologue et que votre ouvrage s'appelle Jana Tchek, Mode d'emploi, opéra Mode d'emploi, et c'est sorti aux éditions Avant-Scène Opéra. Merci beaucoup.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission spéciale Saint-Sylvestre. Dimanche, retrouvez votre émission musicale hebdomadaire, la première de la nouvelle année. Toute l'équipe de Radio Prague vous remercie de votre fidélité et vous souhaite une très belle année 2012.
Radio Praga continúa.